nous sommes apparus sur Terre bien avant les humains. Nous avons survécu à des cataclysmes qui ont porté des milliards de vies. Nous avons tenu bon jusqu'ici. Mais une poignée d'entre vous est en train de façonner un monde qui nous anéantira tous. Nous sommes tour à tour traités d'indésirables, de nuisibles, d'invasifs. Nous sommes piégés, emprisonnés, empoisonnés, massacrés. Malgré cette époque maudite, un petit nombre d'humains essaient de s'organiser et de se battre pour que nous puissions vivre en paix. Décidément, vous êtes imprévisibles. Nous voulons aujourd'hui dénoncer nos agresseurs et rendre hommage à celles et ceux qui nous ont aidés tout au long de notre histoire commune. Je suis le Martin Pêcheur. Nous sommes les oiseaux, nous sommes le peuple ailé, et nous avons bien des choses à raconter. Ceci est notre tribunal. Épisode 7, le jet des chaînes. Nous sommes en France, le 15 juin 2023. Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ouvre une consultation publique, proposant d'approuver ou non un arrêté qui fixe une étrange liste noire, celle des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ou ésodes, qu'on appelait avant 2016 nuisibles. On y retrouve pêle-mêle le renard roux, la fouine, la corneille noire ou encore la pie bavarde. Ces espèces sont accusées de causer des dommages à l'agriculture ou l'élevage, la propriété privée humaine, des problèmes de santé publique, voire, comble de l'ironie pour une liste écrite par les humains, de causer des dégâts à la faune et à la flore sauvage. Le but de cette liste est de permettre la destruction de ces espèces, avec des règles plus souples que pour la chasse classique. Parmi ces présumés coupables, focalisons notre attention sur l'accusé, volatile, le plus coloré de la liste, le jet des chaînes. Cet oiseau est un corvidé, dont l'apparence n'a rien à voir avec celle de ses cousins au plumage noir uni, comme le grand corbeau. La couleur qui frappe en premier est l'orange, un peu terne, qui couvre sa tête, son dos et son ventre. Il arbore une moustache noire facilement visible, qui part de son bec. À cela s'ajoute une tache bleue sur des ailes noires et blanches, un croupion blanc et une queue noire. Il est présent un peu partout en France métropolitaine. C'est un oiseau des forêts que l'on peut retrouver jusque dans les parcs, pourvu qu'il soit riche en arbres. Son cri rauque lui confère également le surnom d'alarme de la forêt, car les autres espèces le reconnaissent comme avertissement qu'un intrus pénètre sur le territoire. Par ailleurs, c'est un excellent imitateur, capable d'imiter le cri d'autres animaux, des mammifères comme le chat domestique, ou des oiseaux comme la buse variable. Voyez un exemple de l'imitation. Et de l'original. C'est un omnivore, que certains humains peuvent parfois apercevoir à leur mangeoire, mais sa nourriture principale est le gland du chêne qui lui donne son nom. Il se constitue des garde-manger en enterrant des glands sous la litière du sol, dans lesquels il peut aller puiser toute l'année, même sous la neige. En effet, c'est un excellent observateur, qui retrouve ses cachettes grâce aux positions des arbres alentours, allant parfois jusqu'à se placer des repères avec des petits cailloux pour se souvenir des caches. Malgré son excellente mémoire, il égare des glands qui finiront par germer. On estime que chaque jet disperse en moyenne 4600 glands par an, et des études ont montré que dans les régénérations naturelles, au moins 59% des plantules sont issues de glands semés par le jet des chaînes. Une autre étude a montré que le jet des chaînes enterrait habituellement les glands à plus de 500 mètres de l'arbre qui les a produits. Ainsi, après 5 siècles de cycles successifs de dispersion et de germination des glands, un vieux chêne peut potentiellement engendrer un massif forestier de 15 km de diamètre autour du pied-mère. Par ailleurs, cet oiseau peut jouer le rôle d'agent sanitaire, car il lui arrive de consommer des individus porteurs de maladies, vivants ou morts, ce qui limite la propagation et permet de maintenir le milieu en bonne santé. Alors, quel est le crime qui lui a valu d'être inscrit en lettres noires sur l'arrêté de 2023 ? Il arrive que cet oiseau consomme des fruits, comme les fraises, s'ils sont abondants et faciles d'accès, et ainsi avoir un impact sur les vergers et les cultures. Il arrive également que le jet attaque des œufs ou des oisillons d'autres espèces et complique leur reproduction. De fait, on autorise son piégeage une grande partie de l'année et sa chasse alors qu'il n'est pas comestible par les humains. Qu'importe si ces oiseaux ne forment pas de grands groupes et ne vont donc que par petits nombres s'alimenter sur des parcelles humaines. Qu'importe que des dispositifs non létaux, comme des filets ou des dispositifs d'effarouchement, ne soient presque jamais mis en œuvre. Qu'importe que cet oiseau ait toujours eu une place dans l'écosystème hexagonal, en tant que prédateur occasionnel, sans que ça n'ait jamais empêché les autres espèces d'oiseaux de perdurer pendant des millénaires. Il est bon de profiter de cette audience pour rappeler quelques éléments. Statuer qu'une espèce est intrinsèquement bonne ou mauvaise n'a aucun sens. Prenons par exemple le chien domestique. Il peut être un fidèle compagnon de l'être humain, voire même un collègue de travail efficace, gardien de troupeaux pour les éleveurs, voire même membre à part entière de certaines brigades de l'armée ou de la police. Cependant, chaque année, plusieurs milliers de personnes se présentent aux urgences pour des morsures de chiens, et des meutes de ces animaux errants causent chaque année des dégâts sur les troupeaux, qui émeuvent bien moins que les dégâts causés par le loup. Mais c'est un autre sujet. Verdict. Comment doit-on juger l'ensemble des chiens en tant qu'espèce ? Nuisible ? Ésode ? Ni l'un ni l'autre ? Ne serait-ce pas plutôt l'être humain le responsable en fin de compte ? Par ailleurs, une synthèse de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité tire les conclusions suivantes. Seuls les effets des destructions des ésodes sur la réduction des dégâts sur la santé humaine et des troupeaux et sur la prédation sur la faune sauvage et cynégétique font l'objet d'études dans la littérature scientifique. Aucune étude portant sur l'effet de ces prélèvements sur les dégâts relatifs aux activités agricoles ni à la propriété privée n'a été trouvée, alors qu'ils représentent une part importante des déclarations de dégâts et entraînent le classement de ces espèces jugées comme responsables. En ce qui concerne les dégâts sur la faune, la majorité des études portent sur les effets des prélèvements du renard roux, de la corneille noire ou de la pie bavarde, et plus minoritairement de la belette. A l'inverse, la recherche bibliographique n'a pu mettre en évidence aucune publication sur l'effet de l'élimination de la martre des pins et de l'étourneau, pourtant bien inscrit sur la liste ésode actuelle. 70% des études portant sur les dégâts sur la faune montrent que le prélèvement des ésodes n'a pas d'effet significatif sur la réduction de leur prédation. Face à cette injustice, la Ligue de protection des oiseaux et l'Association pour la protection des animaux sauvages ont mené tambour battant une campagne pour encourager les humains à protester contre cet arrêté injuste et ils ont remporté la bataille des idées. Lors de la consultation publique, où plus de 49 000 citoyens se sont prononcés, dont près de 71% se sont prononcés contre le projet d'arrêté, soit 5 points de pourcentage de plus qu'en 2019 pour le même arrêté. Malgré cette forte mobilisation, le ministère n'a pas souhaité modifier son arrêté. Bien qu'aucune comptabilité précise ne soit établie, il est estimé que près de 2 millions d'animaux sauvages classés ésode sont ainsi tués chaque année en France pour environ 20 millions d'euros de dégâts déclarés, soit à peine 10 euros par victime. À titre de comparaison, pour l'année 2021 en France, le gaspillage alimentaire a représenté plus de 4 millions de tonnes de déchets comestibles, soit 25 kilos par an et l'équivalent de 100 euros par an et par personne. Je vous épargne les quantités d'eau, de pétrole, les émissions carbone et le travail nécessaire pour faire pousser ou élever des végétaux ou des animaux, les emballer, les transporter pour en aller simple vers la poubelle. Je vous ferai seulement remarquer que l'humain a tendance à trouver des boucs émissaires quand cela lui évite de se regarder dans un miroir. Que voulez-vous ? Même un grand nombre d'individus vertueux ne peut pas contrecarrer un système qui pousse au gâchis. Mais peu importe. Pour le jet des chaînes et les autres Ésodes, la prochaine manche devrait se jouer en 2026. Le combat continue. Préparons-nous pour la revanche. Les sons d'oiseaux que vous avez entendus dans cet épisode ont été enregistrés par Marc Plummer, Béatrix Saadi-Varchmin et Bernard Bousquet et sont hébergés sur le site xeno-canto.org. Au plus fort de l'orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer. C'est l'oiseau inconnu. Il chante avant de s'envoler. C'était le Martin Pêcheur. Merci de m'avoir écouté.